Co-table.
Pour être rationnel, il faut être radical.
Je dis toujours que manger est politique.
Pour que l'aspect santé est primordial.
Il faut prendre le sujet à la racine.
Et là, une fois encore, le changement climatique, il amène un curseur différent.
Faire une révolution écologique.
Et la racine, c'est pas uniquement nous en tant que consommateurs, le porte-monnaie, etc.
C'est les versants que j'ai découverts, c'est la cuisine très engagée, c'est les personnalités fortes.
Et c'est la combinaison des deux qui fait que le produit va être bon.
En fait, à la campagne, on n'a pas besoin de suivre un schéma sur Instagram.
Sur le grill, décotable.
Je suis Fanny Gianceto. Dans ce podcast, je décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. J'interroge également des personnalités publiques sur leur relation à l'alimentation et aux enjeux environnementaux. Que l'on soit expert, scientifique ou politique, artiste, même simple citoyen, l'alimentation est l'une des clés du changement. Vous nous suivez ? Et pour découvrir tout ce que l'on fait chez Écotable, n'hésitez pas à consulter notre site écotable.fr. Vous y trouverez des restaurants labellisés dans lesquels manger, mais aussi des outils d'accompagnement pour les restaurateurs afin d'accélérer la transition écologique. Bonne écoute !
Il y a un peu plus de 400 ans, le bon Henri IV promettait à chaque Français une poule dans chaque pot. Aujourd'hui, la monarchie est passée de mode et il n'y a plus vraiment de poule dans les pots. L'impératif écologique nous conduit désormais à imaginer un monde, ou du moins une France, où l'on consommerait moins de viande. Et de fait, selon une étude menée par des chercheurs de l'université de Leeds, 31% des émissions de CO2 des aliments consommés au quotidien proviendraient de la viande. Selon un rapport des Nations Unies, bien connu, l'élevage serait par ailleurs responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre. À cela s'ajoute que l'élevage occupe aujourd'hui une place très importante. En France, 60% de la surface agricole est dédiée à l'élevage. Dans ce contexte, des alternatives sont apparues. Il y a bien entendu les alternatives végétales qui imitent ou non la viande, mais il y a aussi des alternatives qui se développent via ce que l'on appelle la viande cellulaire. C'est de cette innovation dont je veux parler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette viande cellulaire ou viande cultivée ? Est-ce une technique d'avenir quand on sait que la consommation de viande continue d'augmenter dans le monde ? Pour répondre à ces questions, je reçois aujourd'hui Jean-François Hoquette. Jean-François est ingénieur agronome, directeur de recherche à l'INRAE depuis 2004, spécialiste en sciences du muscle et technologie des viandes. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter, même si je l'ai fait un petit peu ?
Je suis donc Jean-François Hoquette, directeur de recherche à INRAE, l'Institut national de la recherche sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Je suis aussi membre de l'Académie de l'agriculture et membre de l'Académie de la viande et je travaille pour la Fédération européenne des sciences animales dont je vais organiser le congrès annuel fin août 2023 à Lyon. Donc j'ai été président de la commission bovine de cette fédération et j'en suis aujourd'hui un vice-président.
Comment en êtes-vous venu à vous intéresser au sujet de la viande de synthèse ou viande cellulaire ?
La viande de synthèse ou viande cellulaire, on peut discuter de son nom, qui ne fait pas l'unanimité, est une question qui est très présente dans la presse. Et donc, le service de presse de INRAE a reçu des questions de la part des journalistes, et il fallait bien répondre à ces questions. Et donc, en interne, mon laboratoire a été identifié comme étant le plus compétent pour répondre à ces questions, parce que d'une part, on connaît bien la viande, et d'autre part, on connaît bien la biologie musculaire, et on pratique notamment des cultures de cellules musculaires en laboratoire et en laboratoire seulement. Et c'est la technique de base pour produire ce qu'on appelle la viande de culture.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est que cette viande de culture ?
Le principe de cette production de viande consiste à prélever des cellules musculaires ou des cellules souches sur un animal, ou au contraire de travailler avec des lignées cellulaires immortelles qui se multiplient indéfiniment.
On a des lignées de cellules immortelles ?
Nous avons effectivement des lignées cellulaires immortelles qui résultent d'une transformation génétique qui permet à ces cellules de se multiplier un très 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 grand nombre de fois sans être obligé de revenir vers l'animal. Quelle que soit la source de cellules, soit un prélèvement sur un animal, soit une lignée, ces cellules sont placées dans un bioréacteur géant de très grande taille. Elles se multiplient un très très grand nombre de fois parce qu'elles sont plongées dans un milieu de culture qui contient tous les nutriments, les facteurs de croissance, les hormones qui sont nécessaires à cette prolifération, à cette multiplication. À la fin, les cellules fusionnent entre elles pour former des myofibres qui vont grossir et elles vont se transformer, on dit se différencier, en fibres musculaires.
Est-ce que ça ressemble réellement à de la viande ? C'est-à-dire, si on compare une viande issue d'un animal et une viande cellulaire, c'est la même chose ?
Le premier steak artificiel qui a été produit par le professeur Mark Post et qui a été présenté à Londres en 2013 dans un grand restaurant ressemblait finalement à un burger, à un steak haché. Pourquoi ? Parce que il a multiplié ses cellules, non pas dans un bioréacteur à l'époque, mais dans des boîtes de pétri. Ensuite, il a gratté le fond des boîtes de pétri pour détacher les cellules. Il a fait ça plusieurs fois. Il a empilé les couches de fibres musculaires et à la fin, ça ressemblait quelque part à un burger, c'est-à-dire à un muscle qui n'est pas structuré. Dans le processus de fabrication de viande de culture, les cellules se multiplient un grand nombre de fois et se transforment en fibres musculaires. Et le processus de fabrication du muscle n'arrive pas complètement à son terme et on obtient quelque chose qui ressemble à un steak haché. Dans la vraie vie, quand on fabrique un burger, on part au contraire d'un muscle qui est terminé, dont la structure est complètement finie, et on le hache pour le déstructurer, pour préparer un steak haché.
Ok, et nutritionnellement et en termes de goût, en revanche, c'est vraiment la même chose ?
En termes de goût et en termes de valeur nutritionnelle, nous n'avons pas de données publiques qui ont été diffusées par les entreprises du secteur, qui peuvent être analysées et expertisées par des tiers indépendants pour affirmer que le produit final aurait le même goût ou aurait la même valeur nutritionnelle.
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut déjà acheter et consommer de la viande de synthèse ? Alors, je sais qu'en France, on ne peut pas, mais ailleurs dans le monde.
Aujourd'hui, le seul État qui a autorisé la vente à des fins commerciales de la viande de synthèse, c'est l'État de Singapour.
Et les gens l'achètent ?
C'est dans un restaurant. Personnellement, je ne suis pas allé à Singapour. Je ne sais pas si les gens en achètent. C'est en tout cas quelque chose qui mérite d'être mentionné parce que c'est le premier État qui a autorisé la vente de viande de culture.
Ok, on va essayer d'approfondir les aspects notamment aussi environnementaux, mais concrètement tout ce qu'on peut faire avec cette viande de synthèse. Vous nous avez dit, souvent il y a des, alors on a besoin soit d'une lignée, soit de prélever de la viande. Ça veut dire que de toute façon, on a besoin de tuer un animal pour faire de la viande de synthèse.
Quand on prélève des cellules sur un animal, on peut les prélever par biopsie. C'est-à-dire que l'animal reste vivant.
D'accord.
On prélève simplement un petit morceau de muscle extrêmement petit. On peut le faire aussi chez l'homme. D'ailleurs, on peut faire une biopsie musculaire chez l'homme sans tuer ni la personne ni l'animal. À partir de ce petit morceau de muscle, on peut extraire les cellules souches qui se multiplient un très très grand nombre de fois. Donc en théorie, on n'a pas besoin de tuer l'animal. Il y a simplement un point de vigilance, c'est la composition du milieu de culture. Dans ce milieu de culture, on doit apporter tous les nutriments énergétiques, acides aminés, hormones, facteurs de croissance, pour permettre aux cellules de se multiplier. Jusqu'à présent, dans les laboratoires de recherche, nous avions une potion magique qui s'appelle le sérum de veau fœtal. On ajoute quelques gouttes de ce sérum de veau fœtal et tout est parfait car il contient un mélange de facteurs de croissance et d'hormones qui permettent à ces cellules de se multiplier. Le problème, c'est que pour obtenir ce sérum de veau fœtal, il faut tuer la vache gestante et son fœtus pour en extraire la totalité du sang et donc du sérum.
Ah, d'accord.
C'est un processus qui, bien évidemment, n'est pas éthique et en plus, il est très coûteux. Donc pour ces deux raisons, aucune des entreprises du secteur de la viande de culture ne veut utiliser cette technique. Donc ils travaillent actuellement sur le remplacement de ce sérum de veau fœtal par des milieux de culture synthétiques qui peuvent être par exemple à base d'algues ou d'autres choses. Et effectivement, il y a un grand nombre de travaux qui ont été publiés dans la littérature scientifique pour expliquer que c'est faisable, au moins en laboratoire. La question posée, est-ce que c'est vraiment faisable à une échelle industrielle et avec quel coût ? Il n'en demeure pas moins que la seule viande commercialisée et autorisée à la vente dans l'État de Singapour a été produite initialement en utilisant du sérum de veau fœtal.
C'est ça. Donc actuellement, la seule viande cellulaire que l'on peut manger nécessite quand même un fœtus de vache.
Alors effectivement, la première autorisation qui a été accordée à l'entreprise qui commercialise cette vente à Singapour est basée sur un process qui utilise du sérum de veau fœtal. Et l'entreprise nous explique que c'était le premier process et qu'aujourd'hui, elle a d'autres process qui ont été améliorés pour se passer du sérum de veau fœtal.
Ah, donc, est-ce qu'elle s'en passe d'ores et déjà ou elle est en train d'essayer de s'en séparer?
Elle est en train d'essayer de s'en séparer, très certainement.
D'accord.
Et je pense qu'elle va y arriver, il n'y a aucun problème.
Mais du coup, on va le remplacer par quoi? Vous nous avez dit probablement des algues, etc. Ça va être quelque chose de synthèse? Ça va être comment? J'imagine que ça doit être extrêmement difficile de reproduire ce que l'on a dans un fœtus.
C'est extrêmement difficile de reproduire un milieu de culture qui apporte tous les nutriments énergétiques azotés et toutes les hormones et les facteurs de croissance nécessaires à la multiplication des cellules. C'est difficile, mais c'est possible. Et il y a de nombreux travaux de recherche dans ce sens, mais les entreprises du secteur ne nous communiquent pas leurs secrets, et donc je ne peux pas répondre à la question quand est-ce que ça va arriver, est-ce que c'est réellement faisable et à quel coût.
D'accord. Parce que ce qui est mis en avant dans cette viande de synthèse, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'impact de la viande de façon générale. Est-ce que ça ne va pas nécessiter une utilisation importante d'énergie? Est-ce que vraiment on va réduire l'impact de la viande avec cette pratique?
Il y a une première publication en 2011 qui a été faite par la brillante université d'Oxford qui, à partir d'un modèle, a expliqué sur plusieurs critères que la viande de culture produirait moins de gaz à effet de serre, utiliserait moins d'énergie, moins de terre et moins d'eau, notamment que la production de viande bovine. Dans cette publication, les caractéristiques de la production de la viande de culture ont été comparées non seulement à la production de viande bovine, mais aussi à la production de viande de porc et de poulet. Et dans beaucoup de cas, selon ce modèle, la viande de culture présentait d'énormes avantages environnementaux. Cette publication est connue de toutes les entreprises du secteur et a été portée à la connaissance du grand public. Sauf que après, il y a eu un autre travail en 2015, toujours par modélisation, qui a décelé quelques points faibles dans la première étude. Et selon ces nouveaux auteurs, la consommation d'énergie pour produire de la viande de culture serait bien plus importante et en particulier supérieure à la consommation d'énergie pour produire de la viande de bœuf.
Ah oui.
Ensuite, il y a eu un autre travail qui a comparé la production de gaz à effet de serre et les impacts environnementaux de la viande de culture, non pas par rapport à la viande de bœuf, mais par rapport à la viande de poulet et par rapport aux autres substituts de viande. Et là, les autres substituts de viande et la viande de poulet étaient clairement plus performant, donc meilleur pour l'environnement que la viande de culture. En 2019, il y a eu une autre étude qui a fait la différence entre deux gaz à effet de serre, le CO2 ou gaz carbonique et le méthane. On sait que le méthane est produit par l'élevage, il a un pouvoir réchauffant très élevé, mais il a une demi-vie très courte, de sorte qu'il disparaît relativement rapidement de l'atmosphère. Sa demi-vie est de l'ordre de 10-12 ans. En revanche, le CO2 a un pouvoir réchauffant plus faible, mais il reste beaucoup plus longtemps dans l'atmosphère, et c'est le problème qu'on connaît aujourd'hui, puisque le CO2 s'est accumulé dans l'atmosphère depuis l'époque de la révolution industrielle. Et donc, ces auteurs ont fait différents modèles, avec différents niveaux de production de viande de culture, et par comparaison avec différents systèmes d'élevage dans différents pays. L'idée générale est que, sur le court terme, il y aurait un avantage pour la viande de culture, en raison de la quantité importante de méthane produit par l'élevage. En revanche, sur le long terme, au bout de 100, 200, 300, 400 ans, suivant les scénarios, il y aurait au contraire plutôt une faiblesse de la viande de culture, donc un avantage pour l'élevage, en raison de l'accumulation du CO2 dans l'atmosphère.
Entendu. Est-ce que ces études arrivent à prendre en compte les services qu'on appelle écosystémiques de l'élevage? Donc tout ce que l'élevage peut aider à l'environnement, que ce soit en termes d'azote et donc d'engrais, que ce soit en termes de filtration de l'eau, etc.
Toutes les études qui portent sur l'impact environnemental de la viande de culture prennent à coup sûr la consommation d'énergie, la production de gaz à effet de serre, parfois l'utilisation des terres, l'utilisation de l'eau. Et ça s'arrête là. Donc toutes les études ne prennent pas en compte les services écosystémiques de l'élevage, comme par exemple le maintien de la biodiversité animale ou végétale, le stockage de carbone dans les sols, l'entretien des paysages par les animaux qui pâturent, etc. Et donc, la vision des entreprises qui veulent fabriquer de la viande de culture concernant les aspects environnementaux est très partielle. Et même sur les aspects sur lesquels ils communiquent, il n'y a pas de consensus scientifique, notamment pour la production de gaz à effet de serre. En particulier, il y a une dernière étude en 2022 qui a montré que toutes les études précédentes se sont focalisées sur la multiplication des cellules dans les bioréacteurs et ont oublié dans les calculs toutes les émissions qu'on appelle indirectes, c'est-à-dire toutes les émissions qui sont liées pour la fabrication des bioréacteurs, pour la collecte des cellules, la fabrication du milieu de culture en amont, et puis après pour le nettoyage des bioréacteurs, leur recyclage, etc. etc.
Ah oui, ce qui peut être important.
Dans toutes les analyses de cycle de vie, il faut considérer deux types d'émissions. Les émissions directes, par exemple, quand vous faites rouler votre voiture, vous conduisez, il y a des émissions directes qui sont liées à la consommation de carburant. Et à côté, il y a toutes les émissions indirectes pour construire votre voiture en amont, pour la recycler ou la dégrader ou pour l'entretenir. D'une façon générale, on distingue ces deux catégories d'émissions. Et quand on fait les comparaisons, il faut être extrêmement précis. C'est-à-dire, il faut comparer les émissions directes d'une production particulière avec les émissions directes d'une autre production concurrente. Évidemment, il ne faut pas comparer la somme des productions directes et indirectes avec seulement les productions directes de l'autre côté. Et c'est souvent ce qui se fait malheureusement quand on compare la production de gaz à effet de serre de l'élevage par rapport à la production de gaz à effet de serre des transports. Souvent, dans la presse, on voit un biais, c'est-à-dire qu'on compare la somme des émissions directes et indirectes de l'élevage avec seulement les émissions directes liées au transport. Et on aboutit à la conclusion que l'élevage émet davantage de gaz à effet de serre que les transports, ce qui n'est pas exact quand on fait une comparaison correcte.
Ok, c'est un chiffre intéressant et en effet une comparaison intéressante à garder en tête. Vous, du coup, c'est quoi votre analyse de cette viande cellulaire? Est-ce que ça vous paraît être une technique d'avenir ou on se fourvoie à essayer de développer ces viandes cellulaires?
Quand on est chercheur, on n'a pas de boule de cristal, donc on ne peut pas prédire l'avenir. Néanmoins, on peut faire un état des lieux et essayer de dresser une liste des avantages et des inconvénients des innovations qu'on nous propose. Et toutes les innovations ont des avantages, des inconvénients, des avantages potentiels et des inconvénients potentiels qui restent à démontrer ou qui restent à vérifier. En ce qui concerne ce qu'on appelle la viande de culture, il n'y a pas de consensus scientifique comme quoi ça serait meilleur pour l'environnement que l'élevage. On peut se poser un ensemble de questions éthiques autour de la viande de culture. Certes, on réduirait probablement les abattages des animaux pour produire de la viande, donc il y aurait moins d'animaux abattus, mais il y a beaucoup de questions éthiques qu'on oublie, c'est-à-dire que s'il y a moins d'animaux d'élevage, que vont devenir les animaux d'élevage existants? Probablement qu'il y aura une réduction de la biodiversité animale. On va néanmoins garder quelques animaux qui seront prélevés régulièrement par biopsie pour obtenir des cellules. Quid du bien-être animal de ces animaux qui seront prélevés régulièrement et très fréquemment? Ensuite, au niveau de la société, il y a quand même des questions éthiques qui renvoient aux valeurs de notre société. Aujourd'hui, la viande, les produits carnés, les végétaux, les produits laitiers sont essentiellement produits par des éleveurs ou par des agriculteurs, même s'il y a des grands groupes qui achètent ces produits et qui ensuite les distribuent. Mais si l'étape de production est concentrée dans des grandes entreprises, j'allais dire high-tech, qui concentrent à la fois des investissements et une technologie de pointe avec des compétences très précises et très pointues, on peut s'attendre à ce que finalement la première étape de la production soit concentrée dans des grandes entreprises multinationales. Donc ça peut poser un questionnement éthique relatif aux valeurs de notre société.
Oui, complètement.
Donc il y a tout un ensemble de questions éthiques qu'il faut instruire. Concernant les questions environnementales, il n'y a pas de consensus sur l'avantage réel de la viande cellulaire concernant la consommation d'énergie et la production de gaz à effet de serre, mais il faut instruire d'autres champs de cette réflexion relatif aux services écosystémiques rendus par l'élevage qui seraient diminués s'il y avait moins d'animaux d'élevage. Ensuite, il faut, si on souhaite développer cette technologie, répondre à la question des qualités sensorielles, nutritionnelles et technologiques de ce produit, et aussi la question des qualités sanitaires, qui évidemment c'est un prérequis. On peut se poser plein de questions, et on se les pose, sans avoir les réponses aujourd'hui. Ainsi, par exemple, quand on gratte les cellules ou qu'on enlève les cellules du bioréacteur, il peut y avoir des résidus du milieu de culture qui restent coincés entre les cellules, même si les cellules sont lavées. Donc il faut analyser la présence éventuelle de ces résidus. On peut se poser aussi la question de la stabilité ou de la dérive génétique. C'est-à-dire que quand les cellules se multiplient un très grand nombre de fois, on sait a priori que la copie du patrimoine génétique n'est pas parfaite. Donc, est-ce que l'ADN, donc le patrimoine génétique, reste stable, ou au contraire, est-ce qu'il dérive avec le temps lorsque les cellules se multiplient? Et si oui, est-ce que c'est dangereux en termes de santé humaine? Donc, il y a énormément de questions à se poser dans ce champ d'investigation. Et il y a eu une expertise collective récemment de la FAO à Singapour en novembre 2022 qui a listé toutes ces questions sanitaires qui doivent avoir une réponse avant que le produit soit commercialisé. Une fois qu'on a dressé la liste de tous ces avantages et de tous ces inconvénients, on peut faire pareil pour d'autres innovations ou d'autres solutions concurrentes. Et ensuite, on compare toutes les solutions entre elles pour savoir si la balance penche en faveur plutôt des avantages ou des avantages potentiels ou plutôt en faveur des inconvénients ou des inconvénients potentiels. Mmh. Et ensuite, notre rôle en tant que scientifique et chercheur, c'est d'explorer, après cette analyse, les voies les plus prometteuses pour dépenser à bon escient l'argent public et pour répondre au plus vite aux problèmes de notre société qui sont de nourrir l'humanité tout en protégeant l'environnement, tout en protégeant les animaux et tout en protégeant la santé des consommateurs, bien évidemment.
Parce que là, vous nous avez parlé de viande, de produits laitiers, de fruits et légumes, mais ça répondrait de toute façon qu'à la question de la viande. Parce que la question de l'élevage, c'est pas seulement la question de la viande, c'est aussi la question des produits laitiers. Donc de toute façon, ça, sur les animaux continueront d'être utilisés pour leurs sous-produits animaux.
Aujourd'hui, il y a de nombreuses entreprises food tech qui travaillent dans de nombreuses directions. Il y en a certaines, c'est pour produire de la viande cellulaire, qui a vocation à remplacer au moins en partie la production de viande par l'élevage. Mais il y a aussi d'autres entreprises dans le domaine de food tech qui veulent reconstituer des produits laitiers, par exemple, ou qui veulent reconstituer ou préparer d'autres aliments par d'autres voies, par exemple des voies de synthèse, de cuisine moléculaire ou de génie génétique, etc. Par des voies microbiennes, on peut fabriquer des aliments et des nutriments. Donc effectivement, il y a tout un domaine de food tech avec des techniques diverses et variées qui ont pour ambition de compléter, voire de remplacer l'élevage traditionnel.
Et depuis le début, on a beaucoup parlé de bœuf. Est-ce qu'on sait, avec la viande cellulaire, reproduire tous les types de viande, porc, poulet, je pense même à du foie gras cellulaire, du poisson?
Donc sur un plan théorique, on peut cultiver n'importe quel type de cellules, des cellules issues de poisson, des cellules issues de foie, des cellules issues de n'importe quel muscle, de n'importe quelle espèce. Et le fait est, l'entreprise Gourmet, par exemple, en France, elle s'est donnée comme mission de préparer du foie gras à partir de cultures de cellules de foie. D'autres entreprises, notamment aux États-Unis, veulent préparer de la viande cellulaire à partir de biopsies musculaires issues d'espèces qu'on ne consomme pas vraiment en ce moment. Donc vous pouvez imaginer, par exemple, manger un steak de lion, de léopard, de chat, de chien, tout en protégeant la vie de ces animaux. Puisque les animaux ne sont pas abattus, il y a simplement un prélèvement de tissu musculaire.
Et vous l'avez dit, il y a quand même une question essentielle qui est la question des valeurs par rapport à cette viande cellulaire. Concrètement, tout cet argent qui va dans ces technologies de la biotech, dans ces sociétés de la biotech, on peut se dire qu'elle pourrait aller concrètement à tout de suite prendre des actions en matière d'élevage pour qu'on ait un élevage plus extensif, avec plus d'effets écosystémiques, etc. Et que c'est beaucoup d'argent pour quelque chose de très incertain.
La production de viande cellulaire est effectivement aujourd'hui quelque chose de très incertain. Elle nécessite des capitaux, des investissements pour conduire une recherche qui, aujourd'hui, est conduite essentiellement, quasi exclusivement, dans des entreprises privées. Donc on est dans un modèle de recherche privée et non pas dans un modèle de recherche publique. Dans le modèle de recherche publique, quand un chercheur a une idée, il écrit un projet de recherche qui est expertisé par un groupe d'experts anonymes qu'on ne connaît pas. Et si l'expertise est favorable, le projet est financé par de l'argent public. Ensuite, le chercheur travaille et s'il obtient des résultats intéressants, il commence à communiquer sur ses résultats auprès de la société, auprès des bailleurs de fonds, auprès de journalistes, etc. Dans le cas précis de la viande cellulaire, on est face à une mécanique différente, avec les mêmes mots-clés, mais dans un ordre différent. Il y a un certain nombre de personnes qui ont eu l'idée de fabriquer de la viande cellulaire. Ils ont donc écrit des projets de recherche où ils ont fait des présentations pour convaincre des investisseurs qui sont des investisseurs privés. Donc, l'ordre des étapes a été projet, communication, puis financement. Ces financements servent bien sûr à conduire des recherches. Très probablement, les résultats de ces recherches sont communiqués aux financeurs pour les convaincre de financer une nouvelle fois ces recherches. Mais au jour d'aujourd'hui, on a besoin de la première étape que je mentionnais avant, c'est-à-dire une expertise par un groupe d'experts, donc une expertise collective, qui doit être indépendante, donc par des organismes tiers indépendants, pour vérifier ou analyser les avantages potentiels et les faiblesses potentielles de cette technologie. On parlait tout à l'heure d'environnement, de bien-être animal, de faisabilité technique, etc. Donc on a vraiment besoin d'une expertise collective indépendante qui ne reste pas entre les mains des entreprises privées du secteur.
D'autant qu'il y a aujourd'hui des alternatives végétales qui se développent à la viande et qui imitent le goût de la viande. En France, on a les nouveaux fermiers. Aux États-Unis, on a Beyond Meat. Voilà, est-ce qu'on a besoin de créer en laboratoire quelque chose qui ressemble à la viande, plus ressemblant en tout cas, puisque ça, c'est de la viande, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin ?
Avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Certes, il y a trois segments de viande ou de substitut de viande. Il y a la viande telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ensuite, il y a des substituts de viande divers et variés, notamment à base de protéines végétales. Donc là, c'est clairement pas de la viande. Ce sont des substituts de viande.
Mais qui imitent le goût de la viande souvent.
Ces substituts de viande imitent le goût de la viande, mais n'ont pas les mêmes propriétés nutritionnelles. Ensuite, il y a une deuxième génération de substituts de viande qui veulent se rapprocher non seulement du goût de la viande, mais aussi des qualités nutritionnelles de la viande. Et donc, la viande cellulaire rentre dans cette catégorie. Et c'est pour ça que les entrepreneurs du secteur l'appellent viande. Donc, on peut déjà se poser une première question, est-ce que c'est vraiment de la viande ? Et on peut se poser une autre question, le fait de l'appeler viande, n'est-ce pas une stratégie à dessein pour différencier ce produit des autres substituts de viande ? Parce que effectivement, ça fait croire aux consommateurs qu'on est capable de reproduire la viande dans son intégralité, à la fois en termes de goût et en termes de qualité nutritionnelle. Et donc, c'est une technique commerciale pour se démarquer des autres substituts de viande qui ne sont pas de la viande. Donc, si dans la tête des consommateurs, la viande cultivée, c'est de la viande, ils auront l'impression d'acheter de la viande sans avoir les inconvénients de la viande qui sont véhiculés aujourd'hui auprès du grand public. Simplement, il y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas que c'est de la viande. Et donc, l'appellation « viande cultivée » fait l'objet d'un débat. Tout d'abord, pour le boucher, la viande résulte de la transformation du muscle. Quand un animal est abattu, on a un phénomène de rigidité cadavérique, donc le muscle est dur. On ne peut pas manger le muscle parce qu'il est trop dur. Il a besoin de maturer. Il y a des enzymes naturellement dans le muscle qui se mettent en ordre de bataille, en action, pour couper les protéines. Et donc, il y a une transformation du muscle en viande. Autrement dit, il y a autant de différences entre le jus de raisin et le jus de raisin qu'on récolte et le vin qu'on consomme, qu'il y en a entre le muscle qu'on prélève sur un animal et la viande qu'on consomme à la fin. Et cette étape de maturation est complètement oubliée passé sous silence par le secteur de la viande cellulaire. Donc de sorte qu'il fabrique, sur le plan du process, sur le plan biologique, des fibres musculaires ou un tissu musculaire, mais pas de la viande. Ensuite, sur le plan réglementaire, au sein de l'Union européenne, la viande cellulaire rentre dans la catégorie des nouveaux aliments. Elle n'est pas considérée comme un produit carné, comme de la viande. Quand on interroge les consommateurs et qu'on leur demande si c'est de la viande, nous avons fait ça par exemple au Brésil, il y a une majorité des consommateurs qui répondent non, ce n'est pas de la viande. Si on interroge plus spécifiquement des véganes ou des végétariens, ils vont dire oui, c'est de la viande. Donc tout ce qui vient d'un animal, tout ce qui est un peu carné, pour eux c'est de la viande et ils n'en veulent pas. Donc suivant les personnes, suivant les personnes qu'on interroge, suivant la législation du pays, on peut avoir des réponses différentes à cette question. Donc quoi qu'il en soit, pour l'instant, l'appellation viande cellulaire, c'est pas une appellation, c'est quelque chose qui est passé dans le langage courant et contesté. Bon. Et si on appelle ce produit autrement, il va rentrer directement en concurrence avec les autres substituts de viande, puisque le consommateur pourra moins faire la différence avec les autres substituts de viande. Et dans ce cas, il y a des chercheurs qui ont prédit, notamment des chercheurs australiens, que la viande cellulaire serait d'emblée obsolète avant d'atteindre le marché, parce que les autres substituts de viande ont déjà conquis une grande part du marché.
Et seront probablement toujours moins chers, j'imagine.
Alors effectivement, un moteur très très fort pour les consommateurs, c'est le prix d'achat du produit. Et quand on interroge les consommateurs, au moins 90%, sinon 95%, voire davantage des consommateurs, estiment que le prix de ce produit devrait être soit égal, soit inférieur à celui de la viande dite conventionnelle, mais en tout cas pas supérieur. Donc il y a un grand défi technologique qui est d'abaisser le prix de production pour atteindre un prix d'achat qui soit abordable pour les consommateurs.
Et ça, le risque, c'est d'avoir un peu une vision, en effet, à la tech façon Uber, c'est-à-dire que ça soit ponctionné par des investisseurs pour rafler le marché et que ça soit vendu peu cher, alors qu'en réalité, le coût est extrêmement cher.
Voilà, tout à fait, absolument.
Il y a deux sujets sur l'élevage dont on n'a pas parlé. Je me demandais si la viande de synthèse mettait ça en avant comme argument. C'est l'utilisation des antibiotiques dans les élevages et le risque d'antibiorésistance. Et la deuxième chose, c'est aussi le risque des zoonoses. On en a beaucoup parlé avec la Covid-19. Est-ce que la viande cellulaire a comme prétention de répondre à ces deux difficultés ?
Sur le plan sanitaire, les arguments des entreprises du secteur, c'est de dire on travaille en milieu stérile, donc que le risque de contamination est extrêmement faible comparativement au risque dans les abattoirs, puisque dans les abattoirs, la viande peut être souillée par le contenu digestif des animaux ou des salissures sur le cuir des carcasses. Donc on est en conditions stériles et du coup, les risques sanitaires sont extrêmement faibles et donc on n'a pas besoin d'antibiotiques. Sur un plan théorique, sur le papier, c'est complètement vrai. Ceci dit, quand on fait des cultures de cellules en laboratoire, malgré les précautions qu'on prend, peut-être qu'on n'en prend pas assez, le risque de contamination existe quand même. Donc nous, on met toujours des antibiotiques à titre préventif.
Ok.
Bon, mais les entreprises du secteur disent on n'en a pas besoin et je veux bien les croire. Quand on lit les publications scientifiques de ces entreprises, il y en a quand même certaines qui disent il faudra un tout petit peu d'antibiotiques, mais beaucoup moins que dans l'élevage. Bon, je veux bien les croire aussi.
Mais c'est la vision de l'élevage intensif, du coup, de l'élevage où il y a besoin d'antibiotiques.
La viande cellulaire est en compétition avec l'élevage, même si certaines entreprises affirment qu'elles veulent apporter un complément à l'élevage, ce qui est tout à fait entendable. Néanmoins, sur le marché, il va quand même y avoir une forme de compétition. Bon. Donc, il va y avoir différentes techniques pour produire de la viande cellulaire, de même qu'il y a différentes formes d'élevage. L'élevage aujourd'hui le plus résistant sur le plan économique, c'est justement l'élevage intensif, parce que tout a été optimisé pour que cet élevage soit le plus efficace possible sur le plan économique. L'élevage le plus fragile, c'est l'élevage extensif, parce que ce sont des petits producteurs, il y a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, c'est parfois de l'élevage subventionné, le prix des produits est plus cher, parce que c'est souvent des produits sous signe officiel de qualité, etc., etc. Donc, quand on va développer de la viande cellulaire, et que cette production si elle rentre en concurrence avec l'élevage, ça va être beaucoup plus avec l'élevage extensif, plus fragile sur le plan économique, qu'avec l'élevage intensif. Donc le discours qui consiste à dire on veut lutter contre l'élevage intensif, donc du coup réduire l'utilisation d'antibiotiques, etc., etc., malheureusement, il risque de ne pas résister aux faits, parce que dans le marché économique, il n'y a pas de pitié, ce sont les plus faibles qui vont forcément disparaître.
J'ai quelques dernières questions. Vous nous avez dit tout à l'heure, les végétariens ou les véganes, quand on leur présente de la viande cellulaire, ils disent « c'est de la viande, je n'en veux pas ». Si on arrive à faire de la viande sans viande, est-ce que vous pensez que ce sera un produit qui pourra être proposé aux végétariens et aux véganes ?
La question « est-ce que c'est de la viande ou est-ce que c'est pas de la viande ?» c'est une question sémantique qui peut apparaître sans importance. Mais toutefois, elle a des conséquences politiques liées par exemple aux préoccupations religieuses ou aux préoccupations alimentaires des personnes. Sur le plan religieux, il y a certains pays musulmans qui soutiennent la production de viande cellulaire parce que ils ont un problème de production d'aliments pour nourrir leur population. Mais leur stratégie, ce n'est pas d'appeler ça de la viande. Parce que s'ils appellent ça de la viande, la sphère religieuse va s'en mêler, et la question qui vient juste après, si c'est de la viande, est-ce que c'est de la viande halal ? Il y a des gens qui ont commencé à réfléchir à cette question, et les experts religieux ne sont pas d'accord entre eux, déjà. Donc, pour éviter ce type de difficulté, si on veut de la viande cellulaire dans les pays musulmans, mieux vaut ne pas l'appeler viande, tout simplement. Bon. Et donc, pour les végétariens ou pour les véganes, le même type de question peut se poser, sauf que quand même, dans la philosophie végane, l'idée est de dire on ne veut rien consommer qui puisse provenir d'un animal. Donc même si ce n'est pas de la viande, ça provient un petit peu d'un animal quand même. Parce que,
oui, il y a une biopsie.
Voilà, il y a une biopsie, tout à fait.
Et d'un point de vue sanitaire, vous nous avez dit il y a 1000 questions qui se posent encore aujourd'hui, notamment sur la question nutritionnelle de ce que l'on mangerait quand on mangerait de la viande cellulaire. Est-ce que, a priori, quand même, ce serait bon pour la santé ? Ou ça, on n'a pas de réponse sur le sujet.
Il y a des groupes d'experts qui se penchent sur la qualité à la fois sanitaire et nutritionnelle de ce qu'on appelle la viande cellulaire. Ces groupes d'experts ont répondu tantôt oui, tantôt non, ou tantôt on ne sait pas. Je vais prendre plusieurs exemples. C'est vrai que l'autorité sanitaire à Singapour a répondu oui, puisqu'elle a donné son feu vert pour la commercialisation de la viande cellulaire dans l'État de Singapour. Récemment, la FDA, la Food Drug Agency aux États-Unis, a dit qu'elle n'avait pas d'autres questions à poser sur la qualité sanitaire de ce produit à l'entreprise Upsai Foods qui veut demander une autorisation de commercialiser cette viande aux États-Unis. Et donc, ça veut dire que la FDA n'a pas détecté de problème particulier dans le process spécifique proposé par cette entreprise pour commercialiser la viande cellulaire. Ça ne veut pas dire pour autant que tous les procédés de fabrication de n'importe quelle entreprise ont été approuvés. Néanmoins, malgré l'avis favorable de la FDA aux États-Unis, pour obtenir l'autorisation de la mise sur marché aux États-Unis, il faut en plus l'accord de l'USDA. Et donc, il y a une autre étape dans la procédure pour obtenir cet accord, et cette étape est en cours. Ensuite, il y a d'autres groupes d'experts, comme les experts de la FAO que je citais tout à l'heure, ou d'autres groupes d'experts des académies vétérinaires qui se sont penchés sur cette question, et qui, pour l'instant, ont davantage d'interrogations que de réponses, et qui ne savent pas vraiment si c'est sûr du point de vue sanitaire et nutritionnel.
En France, on en est où ? Est-ce qu'il y a des volontés, est-ce qu'il y a des sociétés françaises qui s'intéressent au sujet ? Alors, on a dit gourmet tout à l'heure pour le foie gras. Est-ce qu'il y a d'autres sociétés qui développent de la viande cellulaire ? Et est-ce que politiquement, ça a une chance d'aboutir ?
En France, il y a deux sociétés qui se sont positionnées sur le marché. La société Gourmet, qui veut fabriquer du foie gras à partir de cultures de cellules hépatiques. Et la société Vital, qui veut fabriquer de la viande cellulaire. Donc, ces deux sociétés font la promotion d'une viande cellulaire qui ne serait pas en compétition avec l'élevage et qui serait dans le respect de la tradition française sur le plan gastronomique, sur le plan éthique, etc., etc. Du point de vue politique, les deux ministres de l'agriculture, celui qui est en place et le précédent, n'ont pas émis d'avis favorable pour l'autorisation de ce produit. Et quand on assiste à certains débats, des débats politiques avec, par exemple, une commission sénatoriale qui s'est réunie hier sur le sujet, on ne sent pas une franche adhésion à ce produit. Maintenant, c'est la situation d'aujourd'hui. C'est la situation française d'aujourd'hui. Donc on peut se poser deux questions. Qu'en est-il au niveau européen ?
Oui.
Et on sait qu'au niveau européen, on a des sons de cloche différents. Par exemple, les Pays-Bas investissent massivement dans cette technologie.
Okay.
Et on peut se poser aussi la question, quand sera-t-il dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans ? Et donc, pour l'instant, on ne peut faire que des spéculations. Donc il y a des travaux de sociologues qui nous expliquent que plus il y a de changements techniques à réaliser et plus il y a de changements sociaux et institutionnels à réaliser, moins l'innovation a de chances d'atteindre le marché à court terme. Et donc, c'est le cas, par exemple, de la production de viande cellulaire qui a des inconvénients parce qu'il y a des verrous techniques à lever et il y a des verrous d'ordre sociologique ou institutionnel à lever. Donc, elle cumule des inconvénients de sorte qu'au jour d'aujourd'hui, elle a peu de probabilité d'arriver sur le marché, au moins à court terme, comparativement à d'autres innovations.
Pour conclure ce podcast, j'ai pour habitude de poser les mêmes questions à tous mes invités, donc je vais me permettre de vous les poser. La première, ce sera si vous aviez une mesure politique en matière alimentaire à promouvoir, ce serait laquelle ?
Il y a deux mesures politiques à promouvoir. La première, c'est très clairement réduire le gaspillage alimentaire. Et là, le gouvernement s'y est engagé, il y a quand même des actions en ce sens. C'est un formidable levier d'action, parce que le gaspillage alimentaire à l'échelle mondiale, si c'était un pays, ça serait le troisième pays après la Chine et les États-Unis en termes de production de gaz à effet de serre associés. Et donc, si on réduit, non pas en totalité, mais ne serait-ce que de moitié le gaspillage alimentaire, qui représente à peu près un tiers de notre production agricole. Donc si on passait de un tiers à 15%, on réduirait considérablement la production de gaz à effet de serre associée à l'alimentation, tout en ayant un surplus de produits alimentaires qu'on pourrait redonner aux populations qui en ont besoin. Donc ça, c'est une mesure politique qu'on peut mettre en œuvre tout de suite. On n'a pas besoin de recherche. On n'a pas besoin d'investir des milliards, c'est une question d'organisation, c'est une question de volonté politique. Et aussi une question d'éducation des consommateurs et de morale quelque part. Bon. La deuxième mesure est de revenir en agriculture sur des cercles biologiques vertueux. Tous les processus industriels qu'on évoque pour fabriquer une voiture, pour fabriquer de la viande cellulaire, ce sont des processus linéaires. C'est-à-dire qu'au centre, il y a une fabrication de quelque chose, à la sortie, il y a un produit, mais au départ, il y a des intrants. Donc avec des intrants qui rentrent dans un processus, on obtient un produit. Donc évidemment, il faut minimiser les intrants, maximiser l'efficacité du processus pour que ce soit le plus acceptable possible sur le plan environnemental. Mais la nature, elle fonctionne pas comme ça. Il y a un recyclage ou une circulation de la matière organique entre les sols, la matière végétale et la matière animale. Donc, les sols produisent soit des cultures destinées à l'alimentation humaine, soit de l'herbe ou des fourrages destinés à l'alimentation animale. Les animaux, par leur déjection, enrichissent les sols, de sorte qu'on n'a pas besoin d'intrants ou d'engrais chimiques, etc. Et par ce cercle vertueux, on peut maintenir et augmenter à la fois la biodiversité animale et la biodiversité végétale. Et donc, il est important de sortir de ce cercle linéaire, cette logique ayant été appliquée en agriculture, où effectivement, quand on apporte des engrais dans les sols, on les enrichit, mais ce sont des intrants qui ne sont pas naturels.
Et l'industrie ne sait pas faire autrement aujourd'hui.
L'agriculture sait faire autrement.
L'agriculture, oui.
L'agriculture sait faire autrement parce que, jusqu'à présent, dans l'histoire de l'humanité, on s'est appuyé sur ces cercles vertueux. Néanmoins, il ne faut pas revenir non plus à l'agriculture de nos aïeux. aujourd'hui, c'est possible de faire de l'agroécologie efficace ou efficiente, parce que nos connaissances sont accrues, parce qu'on maîtrise beaucoup mieux les cycles biologiques qu'avant.
Ma dernière question, ce sera, est-ce que vous avez une lecture, un film à conseiller pour tous ceux qui ont envie d'approfondir le sujet, ou quelque chose qui vous a particulièrement inspiré ?
Dans le sujet de l'alimentation du futur, je vais faire référence à un film très vieux qui s'appelle Soleil Vert. Dans ce film, la population humaine est très importante et on offre des galettes vertes à manger à tous ces êtres humains. Et on leur explique que ça vient du plancton. Et en réalité, le plancton a disparu depuis longtemps. Bon, je ne vais pas vous raconter la fin du film, sans doute que vous la connaissez. Quand on pense aux innovations en matière alimentaire, il faut anticiper tout ce qui est possible, même ce qui n'est pas souhaitable. Et autrement dit, avant que l'innovation arrive sur le marché, il faut être en capacité de mettre des garde-fous, il faut être en capacité de bien comprendre tous les attendus de ce marché et toutes les dérives potentielles. Alors évidemment, pour la viande cellulaire, il y a quelques dérives. Il y a certaines personnes qui ont dit « moi, je préférerais consommer de la viande qui résulterait d'une multiplication de mes propres cellules plutôt que de tuer un animal pour le manger ». Ça fait partie des dérives potentielles. Donc il faut en être conscient. C'est pour ça que je fais référence au film « Soleil vert ».
Oui, ça fait... Dès le début de votre intervention, je me suis dit, en fait, c'est une question de clone quand même, tout ça. Enfin, j'imagine que c'est pas exactement pareil, mais on cherche à cloner la viande, quoi.
Comme les cellules se multiplient, on a effectivement des clones cellulaires, oui. En revanche, comme on peut partir de cellules de différentes origines, on peut, au moins sur le papier, avoir une diversité de viande à la fin.
Merci beaucoup, Jean-François Hoquette.
Merci.
Merci d'avoir écouté le podcast sur le grill décotable. Pour nous soutenir, notez ce podcast 5 sur 5 sur votre plateforme d'écoute préférée et lâchez un commentaire. N'oubliez pas aussi d'aller manger dans nos restaurants vertueux et délicieux dans toute la France. Amis restaurateurs et restauratrices, découvrez notre plateforme de restauration durable impact.ecotable.fr qui vous permet de mesurer votre impact, trouver les bons fournisseurs et vous former sur toutes les questions d'éco-responsabilité. À bientôt!
Écoutable. Écoutable.